Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Grand Ciel qui vous permet d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe. Alors vous allez bien? Vous semblez un petit peu pris par le pollen, on dirait.
Oui, je sais pas les quoi, pollens mais... sont très agressifs cette année, très méchants.
Bon courage et bon courage à ceux qui parmi nos auditeurs sont sensibles ainsi à ces petites bêtes de la nature, mais une belle nature qui a été bien arrosée ces temps-ci, mais qui est du coup très verdoyante.
C'est vrai. Ah, c'est bien de commencer par ça, tiens.
C'est beau, cette nature. C'est merveilleux. Je suis venu à vélo ce matin et vraiment agréable.
Oui. Alors, par contre, ce qui est moins agréable, c'est le taux d'abstention record au premier tour des élections régionales et départementales. Selon les bureaux, ça va de 60 à 70%. Et on se dit que finalement, à quelques partis qu'ils appartiennent, les vainqueurs des élections n'auront aucune véritable assise populaire. Est-ce que c'est grave pour vous ?
Oui, je pense qu'il y a une forme de gravité. Maintenant, on peut se demander pourquoi on n'a pas voté. Alors, est-ce que c'est parce que il y a eu un gros débat sur les enveloppes qui n'ont pas été distribuées? Du coup, je me suis rendu compte que je n'ai pas eu d'enveloppe, personnellement, avec les fiches, c'est ça, individuelles des projets, des candidats. Moi, j'ai pu voter à Chartres, et je le fais à chaque fois. Je pense que le vote est un droit incroyable qu'on a en France, de manière démocratique. C'est un droit que beaucoup de pays aimeraient avoir, beaucoup de gens dans le monde aimeraient l'avoir. Souvent, ils ne l'ont pas. Quand ils l'ont, il est souvent bafoué. Donc, il faut voter. Je pense que c'est un devoir civique, de mon point de vue. Et comme chrétien, j'ai même vu dans le temps lointain, vous voyez, il y a peut-être 50 ans, il y avait un peu des listes de péchés. Et on aidait ainsi les gens à se confesser en faisant le point sur leur vie. Mais une des phrases, c'était « n'a pas... effectuer son devoir citoyen d'aller voter. »
Ah ça alors.
C'était considéré comme une faute parce que c'est au fond un acte qui me semble exprimer notre solidarité avec la vie des gens, la vie politique bien sûr, mais les retombées sociales sont là aussi à travers le vote qu'on fait. Donc je pense qu'il y a une forme de gravité. Après, il semble que les gens se désintéressent de plus en plus, ce qui est grave, parce que ça laisse la place, à mon avis, à des extrêmes toujours plus virulents, possiblement en tout cas. Ça dit peut-être aussi que ces élections plus locales, mais pas très locales, au sens que c'est pas l'élection municipale où là on sait qu'on vote pour un maire ou un homme, une femme qu'on connaît. Là, c'est départemental, régional. On sait plus très bien ce que font ces gens, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quelles sont leurs prérogatives, et au fond, ça aide pas à s'impliquer. Je pense qu'il y a aussi un peu tout ça. Alors, est-ce que c'est la faute des médias et des politiques de ne pas assez dire ce qu'ils feront grâce à ce vote? Est-ce que c'est les gens qui font autre chose, qui pensent à se déconfiner, qui pensent à se promener, qui pensent à leurs prochaines vacances, et qui, du coup, mettent le vote comme une non-priorité dans leur agenda? Il y a beaucoup de facteurs que des sociologues ou des politiques analyseraient mieux que moi. Mais je pense qu'il y a une forme de gravité, effectivement, à cette baisse de la participation.
Alors vous avez parlé justement du danger des extrêmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, extrême gauche, extrême droite, etc. Est-ce qu'il y a des votes incompatibles avec la foi catholique? C'est une question assez délicate, évidemment.
L'Église ne donne pas de consigne de vote. Donc je n'en donnerai pas non plus. Je ne dirai pas pour qui je vote. Je pense que l'Église, par contre, depuis toujours, à l'appel du Christ, s'intéresse à l'être humain et essaie de donner tout ce qu'elle peut donner pour soutenir sa condition humaine. C'était le cas dans l'histoire avec les hôpitaux qui ont été créés, les hôtels Dieu au Moyen-Âge, qui étaient pour les pauvres. C'était le cas des lieux d'éducation. Rappelez-vous que la Sorbonne a été créée par l'Église, que les universités, etc., étaient dans le champ de l'Église, les écoles aussi. Donc on a toute cette approche, on peut dire, politique au sens de la vie des gens. Donc on tient compte, effectivement, des propositions que font les partis politiques quant au respect de la personne humaine depuis sa conception naturelle jusqu'à sa fin de vie, la place qu'on donne à des gens qui sont à la marge, des pauvres, des gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas de travail, des gens qui aussi sont migrants, sont donc déplacés, exilés. Quel sort on leur réserve? Tous ces facteurs comptent beaucoup dans le choix que chrétiens nous devons faire.
Du 25 au 28 juin, 8e édition de l'opération Un chemin pour l'évangile dans le Perche. Cette 8e édition vous propose, chers auditeurs et auditrices, de marcher avec le père Yannick Coat, le père Louis-Marie Cuisinier, le père Maurice Manuel, qui passeront par la Basoche-Gouée, au Ton du Perche, Coudray au Perche, des coins magnifiques, tout ça. Monseigneur, je sais que vous aimez marcher. Vous êtes venu à pied de votre diocèse il y a quelques années maintenant.
Oui, ça fait 3 bonnes années que je suis venu au printemps 2018 à pied. J'ai beaucoup apprécié ces 5 jours de marche pour venir de Paris à Chartres. Je sais que cette paroisse du Perche fait ça chaque année. Les fidèles viennent assez nombreux. C'est d'une très jolie région. De fait, j'ai eu une visite pastorale il y a quelques mois là-bas. J'ai beaucoup apprécié les villages, les vallons, les petites forêts. Donc je ne peux qu'encourager les chrétiens, mais aussi les pas chrétiens, ceux qui peut-être aiment marcher, aiment retrouver des personnes et discuter. On est très ouvert à l'aventure avec tous ceux qui viendront à cette belle marche. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec la paroisse pour avoir des informations. Il y a sûrement sur le site interne de cette paroisse, sur nos gens le retrou, donc des tas d'informations qui permettent de se joindre à cette proposition.
Alors, les promoteurs de ce petit pèlerinage, entre guillemets, nous disent très justement, quand on marche, on n'est pas face à face, on est côte à côte. Et c'est très juste. Hein, la plupart du temps, que ce soit durant la messe ou en entretien privé, le prêtre est souvent face à nous. Et de l'avoir à ses côtés, ça change tout. On est tous en marche.
On est en marche, on est l'un près de l'autre. Ça permet à la fois de parler et de se taire. C'est, je dis, pour les couples, quand un couple fait face à face au restaurant et qu'ils ont chacun leur téléphone en main et qu'ils ne se parlent pas, ça me semble tellement triste et tellement signifiant d'un manque de communication entre eux, peut-être une difficulté à communiquer. Quand on marche, on peut se taire, on peut réfléchir et puis on reprend la conversation. On a le temps de regarder en même temps les paysages. Je pense que c'est vraiment inspirant.
Oui. Les premiers chrétiens, Jésus lui-même, ont été des grands marcheurs. C'est une religion du mouvement, le christianisme.
Il parcourait non seulement la Galilée, la Judée pour Jésus et ses disciples, mais après ça, ils sont partis au bout du monde. Pensez à saint Thomas qui va jusqu'au sud de l'Inde, dans le Kerala. Il a dû marcher des années avec ces rencontres incroyables de gens nouveaux.
Voilà. La marche nous amène finalement à la patience, parce qu'évidemment, on va moins vite qu'en automobile, on prend son temps, ce qui me fait dire que le temps est venu pour nous de faire un petit retour sur votre dernier message fraternel, qui est comme un éloge de la patience, au cœur duquel on trouve cette phrase du pape, le temps, elle est énigmatique, mais vous allez nous l'éclairer, le temps est supérieur à l'espace.
Oui, parce qu'on est... il y a beaucoup de lieux où on se déplace assez vite, puis on a vite le souhait d'arriver au point d'arrivée. On part d'un point A, on va vers un point B, et le temps entre A et B nous paraît souvent un temps perdu, donc il faut accélérer, prendre des TGV qui vont vite, avoir des correspondances qui marchent bien. Or, il y a une forme de joie à flâner dans la vie, et aussi la vie est faite d'un processus temporel nécessaire, comme toute croissance d'un... à la fois des plantes, mais aussi des animaux et de nous-mêmes. Il faut le temps de la croissance tranquille. Hein, j'avais été frappé par ce père de famille qui voulait absolument que la maîtresse de son enfant petit, qui avait 3 ou 4 ans, donne des exercices de mathématiques à faire à son enfant en vacances, parce qu'il fallait qu'il progresse vite pour atteindre des bons niveaux. Et quand elle lui disait « Mais non, mais laissez-le jouer, simplement jouer avec lui », il ne comprenait pas du tout, ça lui paraissait du temps perdu. Or, le jeu permettait à l'enfant de développer des capacités créatives, etc. Donc, l'espace est souvent l'instant, l'espace où je vis, mais quand le pape dit « le temps est supérieur », il met en valeur le processus de cheminement, de marche, on peut dire, de patience aussi, avec d'autres, vers un but qui est désiré, mais qui n'est pas immédiatement atteignable et qui permet, ce temps permet de jouir de l'instant présent, de la rencontre, de la relation. Et la vie de l'homme est faite de relations. En tout cas, je souhaite à chacun d'avoir des relations amicales, tellement précieuses, ou familiales d'ailleurs, et puis des relations, bien sûr, avec le Seigneur. Et en même temps, cette nature qui nous entoure permet cette relation très belle avec un monde magnifique, si on sait le regarder. Et il faut du temps pour regarder un écureuil qui monte sur un arbre, qu'il faut du temps pour repérer une biche au fond d'un bois. Et ce temps est précieux.
Oui. Alors, ce qui est vrai pour l'enfant dont vous parliez, qui apprend à compter, l'est aussi pour le, par exemple, pour le couple. Une vie amoureuse, une vie dans le mariage, c'est une vie vouée à la patience aussi.
À la patience, et puis je crois qu'il y a une sagesse à perdre du temps ensemble. À se dire, on va aller simplement avoir un bon temps, comme on dit, prendre du bon temps. Ça peut être dans l'écoute, dans la tendresse physique, ça peut être dans la rencontre. Voilà, ne pas. Moi, je vois bien combien on est tenté, alors moi, je le suis profondément, de remplir un agenda de cases, de couleurs, comme ça, sur les électroniques, on met des couleurs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'espace vide. En tout cas, s'il y a un espace vide, on va insérer une activité et perdre du temps. Voilà. Ouais. C'est au fond de gagner.
Ouais. Vous donniez l'exemple d'ailleurs d'un couple qui joint l'utile à l'agréable en se prenant un moment pour manger une pizza une fois par mois.
Ah oui, c'est un couple que j'ai bien connu. Et c'est vrai qu'ils avaient, pendant des décennies, ils ont réservé la même table dans la même pizzeria le même soir. Et c'était inamovible. Et ils avaient cette soirée, 2-3 heures à deux au restaurant pour parler de choses importantes, pour échanger, pour s'écouter. Ils avaient le temps de le faire.
Ouais.
C'était un choix délibéré d'avoir une soirée de couple à deux. Ils avaient des enfants qu'ils faisaient garder par une babysitter, je pense, petits, mais c'était leur priorité, ce temps ensemble.
Ouais. Pour finir, il nous reste deux petites minutes. Pour finir, une et même deux bonnes nouvelles, les ordinations de Louis-Marie Boët et Clément Pierson.
Voilà, alors, dont Louis-Marie est un prêtre de la... de Fraternité Saint-Martin, qui sera bien sûr avec nous, puisqu'il est sur notre diocèse. Clément Pierson va être ordonné particulièrement le dimanche 4 juillet, donc à 11h, ici à Chartres, à la cathédrale de Chartres. Il sera ordonné pour être diacre, donc serviteur, hein, serviteur de la parole, serviteur de la table des pauvres aussi. Et il le sera en vue d'être prêtre l'année suivante, si le chemin se confirme pour lui. Donc c'est une grande joie pour nous tous. On aura une belle célébration et j'invite vraiment à chacun à venir à cette belle célébration de 11h. Bien sûr, sans pour autant délaisser vos paroisses, ou peut-être que vous êtes, ceux qui m'écoutent, en tout cas investis pour animer. Mais on se réjouit, puis l'occasion de rappeler qu'il nous faut prier quotidiennement pour que des jeunes hommes, des jeunes femmes entendent dans leur cœur l'appel à offrir leur vie dans une vie consacrée. Certains, ce sera la vie religieuse, d'autres la vie monastique, d'autres comme laïcs consacrés dans le monde, mais certains hommes seront, je l'espère, prêtres pour notre diocèse, mais aussi pour l'Église universelle.
Merci beaucoup, Monseigneur. Cette émission, chers auditeurs et auditrices, vous pourrez la réécouter sur www.radiograndciel.fr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.
Moi, je sais qu'un jour t'iras sur les kayaks de l'Alaska, rejoindre les chercheurs d'or, Jack London du Mackenzie. Moi je sais, un jour tu iras sous les pavés de Manhattan, quand les chevaux de Geronimo remonter la 5e avenue. Moi je sais, un jour tu iras dans ce train qui mène à Pékin. Tu embrasseras cet homme jaune dans un couloir du Transsibérien. Moi je sais, un jour tu iras sur les pirogues de l'Afrique, tu rencontreras un serpent recouvert de plumes magiques. Moi je sais, un jour tu iras avec ce type plus beau que moi. Il sera plus jeune et plus fou, fera danser les bougalous.